t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mboujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute des Radio Capi qui vous propose tout de suite parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur la fréquence de la paix. Plusieurs manifestations ont été organisées la semaine dernière pour célébrer le 10e anniversaire du rapport mapping des enquêtes d'experts des Nations Unies sur les violations les plus graves des droits humains et des droits internationaux humanitaires commises en RDC entre 1993 et 2003. Ce rapport recommande notamment la mise en place d'une juridiction spécialisée pour juger les auteurs de ces crimes. 10 ans après, que faut-il faire pour appliquer les recommandations de ces rapports? Vous pouvez participer à cette émission à l'adresse pa@radiocapi.net. Vous pouvez également nous rejoindre au 081 890 63 30 ou encore au 081 890 49 69. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook au moment où l'émission se tient. Polydor Basunga et Pierrot et la Mégie concourent à la production de cette émission. J.R. Lungembo, Luabung Anji est à la présentation. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons dans ce studio le plaisir de recevoir donc Maître Katende et qui est avec nous de la ZADO pour traiter de cette question. Bonjour Maître.
Bonjour.
Alors d'entrée des jeux, pour éclairer la lanterne des uns et des autres, parce que d'aucuns n'attendent que le rapport mapping. Le rapport mapping, c'est quoi au juste? De quoi s'agit-il?
Merci JR pour la question. Le rapport mapping, c'est tout simplement un descriptif de certains incidents ou de certains cas de violation de droits de l'homme et du droit humanitaire intervenus en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003. On y décrit les incidents les plus graves en termes de violation de droits de l'homme et du droit humanitaire intervenus dans cette période-là. Et je voudrais noter ici à l'attention de vos auditeurs que le rapport mapping ne décrit que les faits, sans mentionner les noms des personnes ou des personnalités qui étaient à la base. Mmh. Donc c'est tout ce qu'on peut savoir.
Est-ce qu'on peut comparer le rapport mapping avec d'autres commissions d'enquête? Notamment, par exemple, les enquêtes menées par la ZADO ou encore d'autres institutions?
En partie, oui. C'est-à-dire que les rapports qui sont conduits par la ZADO ou par d'autres organisations de droits de l'homme comme la VSV, comme Human Rights Watch, il y a cette différence que les rapports mapping décrit les faits sans mentionner les auteurs. Mmh. Alors que nos rapports à nous, nous y narrons les faits, mais aussi les auteurs. Mmh. Et c'est pour des raisons évidentes que le rapport mapping ne mentionne pas les noms des personnes parce que ce rapport n'est pas fait par une juridiction qui puisse qualifier, n'est-ce pas, les faits et aussi établir les responsabilités. C'est pour ça que le rapport insiste. Il a un aspect totalement consacré à l'état de la justice en République démocratique du Congo et à la suite de cette description de la justice en République démocratique du Congo, et il est fait une recommandation qui est celle de mettre en place la justice transitionnelle. Et vous savez que la justice transitionnelle comporte plusieurs aspects.
Alors, quand on évoque, vous avez dans ces rapports, on recommande notamment la mise en place d'une juridiction spécialisée. Alors aujourd'hui, 10 ans après, pourquoi cela n'arrive pas?
La question, elle est importante. Il faut dire qu'il y a eu plusieurs pesanteurs.
Et la Parce première... qu'il faut les signaler que les faits évoqué dans les cas ici, c'est ça date de 93, c'est-à-dire à l'époque où Mobutu et son régime étaient encore en place.
Évidemment. Et vous allez voir que, par exemple, l'épuration de Kassaïens dans la province, l'ancienne province du Chaba, est mentionnée aussi dans ce rapport.
L'opération Lititimboka en 90?
Exactement. Maintenant, non. L'opération Lititimboka n'est pas mentionnée parce qu'elle est intervenue avant. Mais ce qu'il faut signaler, c'est d'abord le fait que les autorités de la République démocratique du Congo, de l'époque, n'avaient pas pris ce rapport à bras
le corps
pour pouvoir le mettre en œuvre. Et ça, c'est la plus grande déficience parce que il aurait fallu que le président Kabila et les membres de son gouvernement à l'époque prennent ce rapport pour le mettre en œuvre. Et vous savez, la stratégie de l'époque était que tout ce qu'on demandait par la communauté internationale au président Kabila, il l'accordait, mais il ne mettait rien en œuvre. Mmh. Maintenant, au-delà de la non-implication des autorités congolaises, dans la vulgarisation et dans les plaidoyers pour qu'il y ait un tribunal qui puisse prendre en charge ce rapport, c'est le fait que dans toutes les institutions de la République, au gouvernement, au Sénat, à l'Assemblée nationale, vous trouvez certaines personnes qui étaient impliquées dans les faits qui sont décrits dans ce rapport. Ce qui fait que ces personnes ne pouvaient pas permettre à ce que la justice agisse convenablement pour les mettre en cause. Vous allez voir qu'on décrit, par exemple, les massacres des Mwenga, les massacres des Kasika. Nous, en tant qu'organisation de droits de l'homme, et un fait important, c'est que si vous lisez ce rapport, vous allez voir que l'Azado a été mis en vedette. Pourquoi? Parce que beaucoup d'informations ont été fournies par nous. Et nous, nous connaissons certaines personnalités qui étaient impliquées dans certains nombres de massacres ici en République démocratique du Congo. Et ces personnalités sont au pouvoir, sont dans les institutions. Donc, elles ne pouvaient pas permettre à ce que la mise en place des recommandations puisse avancer. Au-delà de ça, il faut noter la présence de certaines multinationales qui étaient impliquées dans ces incidents à un certain niveau parce qu'elle voulait avoir l'accès aux ressources naturelles à des prix moindres. Sans oublier que les pays voisins tels que le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi ont fait une campagne au niveau international pour discréditer en fait le rapport Mapping qui n'a pas été fait, et qui n'a pas été bien fait, qui n'a pas pris en considération tel ou tel autre aspect. Alors que nous qui avons vécu certains faits, nous savons que c'est la vérité. Mmh. Et cette campagne, comme elle n'était pas contredite par les autorités de la République démocratique du Congo, a fait que rien n'a été fait au niveau international. Et aujourd'hui, il faut souligner les rôles importants joués par le docteur Mukwege, qui a relancé cette campagne, oui, qui a relancé ce débat, qui a relancé cette campagne, en sorte qu'aujourd'hui, la question du rapport Mapping est inscrite sur l'agenda de beaucoup d'institutions internationales. Mais cette campagne n'a pas été faite seulement par les docteurs Mukwege. Il y a d'autres personnalités internationales qui ont travaillé là-dessus, comme par exemple Monsieur Herman Cohen, qui a travaillé sérieusement sur la question du tribunal international pour le Congo.
Voilà. Alors, juste une curiosité avant de retrouver les auditeurs qui nous ont rejoints à ces débats. Il y a Maître Lumbulumbu et également Benjamin qui est à Kinshasa et Jacques à Goma. Mais si nous constatons qu'il y a eu beaucoup de dialogues organisés en RDC sous forme de baraza, sous forme de pourparlers, et que dans les volets droits humains ou encore réconciliation, si jamais ce dialogue était franc, est-ce que le rapport Mapping aurait également eu son contenu jusqu'à aujourd'hui? Parce que je crois que ce dialogue aurait déjà eu le temps de vider tout le contenu du rapport Mapping.
Bon, il faut comprendre que beaucoup des dialogues qui ont été faits à l'époque du président Kabila étaient faits principalement dans le sens de laver les personnes impliquées dans le rapport Mapping ainsi que dans les autres incidents. Vous allez vous rappeler que le dialogue de Goma était pour pouvoir laver les gens du CNDP, les faire introduire dans les institutions.
Avec comme résultat les brassages.
Exactement, voilà. Tout ce qui est arrivé, c'était pour prendre certaines personnes qui n'étaient même pas des Congolais, les faire entrer dans les institutions. Et si vous voulez comprendre la faiblesse de la République, des institutions de la République démocratique du Congo aujourd'hui, il faut lire le rapport Mapping. Parce que là, vous allez voir que, par exemple, pour ce qui concerne l'armée, tous les anciens militaires de Mobutu qui étaient envoyés à Kitona ont été maltraités de telle sorte que moralement, ils ne pouvaient plus rester dans l'armée. Et beaucoup sont morts. Or, parmi ces gens, nous avions des gens qui maîtrisaient bien la situation sécuritaire du pays, des gens qui ont été très bien formés dans les grandes académies militaires, et l'objectif était de les éliminer pour que l'armée reste fragile, comme nous le constatons aujourd'hui. Mmh. Et vous allez voir que cela a été mené aussi au niveau politique, où il y a eu la disparition de certaines figures importantes de l'histoire du pays. Et donc, on a voulu laisser le pays entre les mains des personnes qui ne le maîtrisaient pas pour le rendre fragile. Mmh. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
Voilà, on va ouvrir les standards et accueillir les autres auditeurs qui ont émis les vœux de pouvoir participer dans cet échange citoyen autour du rapport Mapping des enquêtes d'experts des Nations Unies sur les violations les plus graves des droits humains et des droits internationaux humanitaires commises en RDC entre 1993 et 2003. Donc, notez que c'est à l'époque du président Mobutu, jusque même les autres présidents qui se sont succédés, pourquoi pas Mzé Laurent-Désiré Kabila et aussi Joseph Kabila, comme vient de le dire d'ailleurs notre invité, plusieurs dialogues qui pouvaient de manière franche sauver ou encore vider le contenu de ces rapports Mapping ne l'a pas été parce que c'était fait pour protéger telle ou telle personnalité. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembu.
Maître Lumbulumbu, vous êtes avec nous, bonjour. Maître Lumbulumbu, vous êtes avec nous? Voilà, on prend plutôt Benjamin qui est à Kinshasa. Benjamin, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Voilà, Maître Lumbulumbu, vous êtes avec nous?
Oui, je suis en ligne, JR.
Voilà, vous êtes, nous les rappelons d'ailleurs, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Nous parlons du rapport...
Du Nord Kivu.
Voilà, du Nord Kivu. Nous parlons du rapport Mapping. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a le docteur Mukwege qui relance les débats sur cette question. Qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui?
Bon, il faut dire d'abord que pour moi, en tant que fils de Nord Kivu, en tant qu'élu de Nord Kivu, la remise sur la table de la discussion sur le rapport Mapping présente plusieurs intérêts pour beaucoup des victimes qui ont été dénombrées dans ces rapports. Vous savez, le Nord Kivu est parmi les provinces, si pas la première, qui est citée dans ces rapports. Et plusieurs faits susceptibles d'être qualifiés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, ou des crimes de génocide ont été commis particulièrement dans la province du Nord Kivu, et que donc lorsque ce rapport est remis à table pour qu'on puisse discuter sur l'opportunité de la mise sur pied des tribunaux spéciaux, je pense que c'est une question intéressante, et c'est là que je voudrais rendre hommage au docteur Denis Mukwege et à beaucoup d'autres acteurs sur le plan national et sur le plan international qui ont soutenu cette démarche au Nord Kivu. Par exemple, j'ai vu des associations féminines au nombre desquels, par exemple, la plateforme Saouti Yamamam Kongomani, qui ont organisé des manifestations pour soutenir l'examen de ces rapports et l'application de plusieurs recommandations couchées dans ces rapports. Il y a un souci de justice, un souci de réparation, un souci de la réconciliation qui se trouve être couchée dans ces rapports. À travers ces rapports, je me dis qu'il faudrait que les générations futures sachent que lorsqu'on est autorité, lorsqu'on est détenteur du pouvoir, On n'est pas autorisé à commettre des dégâts, on n'est pas autorisé à commettre des crimes tels que cela a été décrit dans ces rapports. Et que pour cela, je pense qu'il faut soutenir l'idée de la mise en place de ces tribunaux. Les recommandations ici dans ces rapports sont des recommandations qui sont très très importantes pour la province, comme le Nord Kivu, où beaucoup de personnes ont été victimes de faits qui sont décriés, qui sont dénombrés dans les rapports mapping, et que donc pour le Nord Kivu, par exemple, ces rapports présentent un intérêt capital, notamment pour le souci de justice, pour le souci de la réparation de beaucoup de victimes qui ont été des nombreux qui sont partis parce qu'il y a été victime de faits commis par beaucoup d'autorités dont certaines sont aujourd'hui dans les institutions. Je pense que c'est très 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 important de remettre cette question sur la table.
Oui,
mais
oui,
que
oui, mais
le gouvernement puisse prendre cette question à bras le corps cette fois-ci pour que l'on puisse appliquer les recommandations issues de ces rapports.
Oui, Maître Lumbulumbu, on sait que plusieurs gouvernements passés, sous l'autorité, bien entendu, de Joseph Kabila, ont pu organiser certains dialogues, ne serait-ce que pour, au fait, parler de vive voix et de manière claire, avec ceux qui étaient concernés, même des personnalités qui étaient concernées par rapport au rapport mapping, mais d'aucuns disent qu'effectivement, tous ces dialogues n'ont été organisés que pour, au fait, disons, protéger ses personnalités. Et c'est pourquoi ça n'a pas donné des résultats. Et aujourd'hui, ça serait tout à fait difficile de pouvoir arriver à cette recommandation d'établissement des tribunaux pour résoudre cette question.
Je pense que s'il faut s'inscrire dans la logique du chef de l'État, pour qui la justice joue un rôle très, très important dans notre nation, vous savez, la justice élève une nation. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, voudrait que la RD Congo soit un État de droit. C'est vrai que nous avons été quelque peu déçus de son discours lorsqu'il dit qu'il ne va pas fumer dans le passé, mais je pense que les générations actuelles et les générations futures attendent qu'il puisse y avoir réparation de beaucoup de préjudices subis par plusieurs populations, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo, dans cette question. Et moi, je mets plutôt à l'épreuve la volonté du nouveau régime, la volonté du chef de l'État, l'invitant à assumer son discours d'état de droit, afin que finalement les rapports mapping puissent être remis sur la table, qu'ils puissent être exploités et que ces recommandations puissent être exécutées. Ça sera l'un des signaux forts de la volonté claire du chef de l'État d'installer véritablement.
Voilà, donc si je comprends bien, le pouvoir passé n'a pas pu, disons, exécuter ces rapports. En quoi vos propos?
Il n'a pas pu exécuter ces rapports, effectivement, oui, parce qu'il fallait protéger X ou Y personnalités citées dans les rapports. Mais je pense qu'avec le nouveau régime, avec le nouveau président, nous pensons qu'il y a toujours possibilité, avec l'accompagnement, bien sûr, de la communauté internationale surtout.
Est-ce que vous pensez que ce nouveau régime ne pourra pas rencontrer également des obstacles politiques, diplomatiques?
Évidemment, il y a des craintes, mais je pense que dès lors qu'il y a ce souci-là de justice et de réparation, évoqué notamment par les voix des 100 voix au premier rang desquelles le docteur Mukwege, il y a lieu que le chef de l'État, je sais qu'il est très très attentif aux problèmes de la population, il y a lieu qu'il puisse capitaliser cette opportunité afin que le rapport mapping, cette fois-là, qu'il puisse avoir un suivi d'application de ces recommandations qui sont très très importantes pour la réparation, surtout au bénéfice des victimes de faits qui sont décriés dans ce rapport-là.
Merci beaucoup, Maître Lumbulumbu. Nous ne serons pas allés plus loin avec vous parce que vous avez d'autres occupations. Vous avez accepté d'accorder juste quelques minutes. Merci d'avoir accepté de contribuer dans cette émission. Alors, Benjamin, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à l'invité et bonjour aussi aux auditeurs de la Radio Okapi.
Quel est votre avis par rapport à ces débats?
Ah oui, par rapport à ces débats, il est bien de saluer la célébration du 10e anniversaire du rapport mapping sur les crimes commis entre 1993 et 2003. Ici, je constate une chose, monsieur le journaliste, qui du reste est que les crimes commis en RDC son intervalle ne se limite pas seulement entre 1993 et 2003, bien sûr. Jusqu'à présent, les crimes plus graves se commettent d'une manière répétitive et ces crimes sont d'un se galoper le firmament. Aujourd'hui, il y a crime contre l'humanité, la violation des droits internationaux des humanitaires, et donc il y a encore des crimes, des génocides, et d'ailleurs, je vous avoue que le nombre de gens tués à l'est du pays dépasse même plus été celui de la, celui de la génocide de Rwanda. Et aujourd'hui, on vous parle de créer une juridiction spéciale pour déférer ces gens afin qu'on puisse les juger. Moi, je trouve ça, ce sont des manières prédilatoires. Dans la mesure où, dans le passé, on n'a pas pu déférer ces gens, jusqu'à présent, on nous parle encore que non, il faut créer des juridictions spéciales. Dans le passé, vous voyez, il y avait de multiplication des réunions, de conférences, afin qu'on puisse appliquer les rapports mapping. Et d'ailleurs, tout le monde comprend que non, c'était pour leur intérêt. Et aujourd'hui, comme je vois avec l'accélération et la vitesse de prix Nobel de la paix, M. Mukwege, en 2019, ils ont procédé à la précipitation de créer des lois fallacieuses pour protéger des gens, dont certaines personnes qui d'ailleurs sont impliquées par rapport à cette maladie.
Oui, mais vous parlez de quelle loi? Vous parlez de quelle loi?
Loi qui protège certaines autorités, donc il y a des immunités, des immunités de poursuite.
Donc si je comprends bien, vous parlez des lois portant statut des anciens chefs de l'État. Vous estimez que c'est cette loi qui protège des bourreaux?
Oui, c'est cette loi qui protège les bourreaux. C'est pourquoi, d'ailleurs, cette loi c'est une loi inconstitutionnelle qu'on ne peut pas tenir compte de ça. Donc,
Je crois qu'on aura, un autre jour à faire le débat sur cette inconstitutionnalité que vous évoquez. Mais la grande question, pensez-vous que ce rapport, qui n'a pas été exécuté par les gouvernements passés, le sera, cette fois-ci, avec l'avènement d'un nouveau régime? C'est la question générale que nous posons dans cette émission. Jacques, vous êtes à Goma, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Radio Okapi et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Quelle est votre réaction, Jacques?
Ok. Donc, chez moi, c'est une inquiétude que j'ai surtout sur l'enquête, l'enquête de mapping. Donc, j'ai beaucoup d'inquiétudes et surtout les recommandations fournies par CERPOR. Donc, quand je vois des atrocités qui continuent, et qui ont commencé même depuis avant longtemps, avant même le gouvernement actuel. Donc, je me pose beaucoup de questions concernant ces rapports. Est-ce que ces recommandations seront admises par notre gouvernement ou si et seulement si les Occidentaux continuent surtout à mettre une main forte sur nos dirigeants africains? Donc, je me pose beaucoup de questions sur cette enquête. Mmh. Et je m'inquiète beaucoup qu'il n'y aura pas de...
Il n'y aura pas de solution à des... Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, on revient à vous, Maître Katende. C'est vrai, vous avez suivi les uns et les autres, Maître Lumbulumbu, Benjamin et Jacques Degoma. Mais la grande question aujourd'hui, est-ce qu'on peut se rassurer qu'effectivement, si les gouvernements passés n'ont pas pu, exécuter ces rapports mapping, avec beaucoup de difficultés qu'ils ont racontées, sûrement ils ont des raisons, que ils peuvent l'évoquer. Est-ce que ça sera possible aujourd'hui avec les gouvernements actuels qui semblent imprimer un peu un état des droits?
Merci, JR, pour...
Si seulement l'état des droits n'est pas un slogan.
Non, je pense que nous avons une grande opportunité aujourd'hui pour que ce rapport commence à être mis en œuvre, particulièrement les recommandations, parce que nous avons un président de la République qui n'a pas été impliqué ni de loin ni de près dans les faits décrits dans le rapport mapping. Alors qu'à l'époque, nous avions un président de la République qui était de l'AFDL. Donc, quelque part, le président Kabila pourrait être cité comme un des acteurs clés dans la commission des faits dont on parle ici. Vous n'êtes pas sans oublier le massacre des Tingi Tingi, où l'AFDL était mise en cause et s'est repris dans le rapport. Et vous avez aussi certains ministres de l'époque qui étaient aussi impliqués dans la commission de ces faits. Donc nous ne sommes plus dans ces régimes-là où les chefs de l'État pouvaient être impliqués dans la commission de certains faits décrits dans le rapport. Le président Félix Tshisekedi, est totalement étranger à toutes ces actions dans la mesure où il peut impulser, n'est-ce pas, les choses pour que les recommandations soient mises en œuvre. Mmh. Mais je voudrais dire, comme Monsieur Lumbu Lumbu l'a dit mais aussi...
Quelles peut-être les difficultés que rencontrera ces pouvoirs pour la mise en œuvre de, ces rapports? Est-ce que ça peut être d'ordre politique?
Non, la difficulté d'abord, c'est le fait majeur. Que le président de la République a dit qu'il ne va pas fouiner dans le passé. Or, les crimes qui sont décrits dans les rapports...
Ce sont des crimes du passé.
Oui, sont des crimes du passé, mais aussi des crimes graves pour lesquels les citoyens pris individuellement ne peuvent pas mener des actions d'envergure pour que les acteurs ou les auteurs des faits, qu'ils soient du niveau national ou du niveau international, soient traduits devant la justice. Il faut l'implication des institutions de la République démocratique du Congo. Donc, le discours du président est quand même un blocage par rapport à la mise en œuvre de ces recommandations. Mais en même temps, nous avons noté dans les chefs du président de la République cette volonté d'aller vers la justice transitionnelle. La justice transitionnelle ne signifie pas pardon pour tout. Mmh. La justice transitionnelle a aussi la dimension justice. Ça veut dire qu'il y a certains faits qui peuvent être considérés comme extrêmement graves, qu'on ne pourrait pas pardonner, pour lesquels le pardon n'est pas requis, mais pour lesquels les personnes doivent être traduites en justice. En dehors de ça, il faut souligner le fait que le président de la République est dans une coalition avec les membres du FCC. Et nous savons que dans les membres du FCC, il y a plusieurs qui viennent des rébellions, des anciens groupes rebelles, des mouvements rebelles, je peux dire. Vous avez les gens qui viennent du RCD, KML, vous avez des gens qui viennent du MLC, vous avez des gens qui viennent de partout. Ces gens sont dans la coalition avec le président de la République.
Et qui sont cités dans ces rapports, qui sont impliqués.
Qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans les faits. Parce que nous, en tant qu'organisation de droits de l'homme, j'ai déjà mentionné le fait que l'Azado a beaucoup donné dans la rédaction de ce rapport. Et c'est mentionné dedans. Donc nous connaissons nous-mêmes quelles sont les personnalités qui sont encore en vie aujourd'hui, qui sont dans les institutions et en dehors des institutions, qui continue à tirer des ficelles. Il y a un de vos auditeurs qui a parlé de loi. Vous n'avez pas voulu qu'on aborde cette question. Mais si vous regardez bien, depuis 2003, il y a eu beaucoup de lois d'amnistie. Et l'amnistie signifie, et ça c'est ce qui est grave, l'amnistie signifie que...
C'est comme les un pardon faits... qu'on a annulé.
Non, c'est plus grave même que les pardons, c'est-à-dire... On considère que les faits n'ont jamais eu lieu.
On a effacé les iniquités, on a effacé les...
Donc ces gens ne sont...
Donc il est blanchi, quoi.
Ne sont pas redevables, ils sont blanchis. Parce que, en fait, l'amnistie est différente de la grâce. La grâce vous donne le pardon, mais les faits restent. Mais l'amnistie efface tout. Mais ces amnisties qui ont été données de manière cavalière par le régime de l'époque ont totalement ignoré les victimes, qui sont de plus en plus nombreuses. Monsieur Lumbulumbu parlait du Nord Kivu. Mais quand vous regardez bien, toutes les provinces de la République démocratique du Congo ont été touchées. Quand vous regardez bien, il n'y a aucune province qui a été épargnée, même si nous savons que la concentration des exécutions, c'est dans l'espace du Kivu. Les Maniema, le Sud Kivu et le Nord Kivu. Donc, c'est cette alliance du président de la République avec les anciens membres de l'AFDL est un blocage.
Ça peut constituer un obstacle.
Exactement, mais ce n'est pas un obstacle qui n'est pas franchissable. Et c'est là que nous disons que ces faits doivent être considérés pas seulement comme des faits qui concernent les ressortissants.
Il faut qu'on laisse réellement la justice puisse faire son travail.
Exactement.
Donc, avec notre justice, ça ne serait pas possible.
Non, avec notre justice, ce n'est pas
même
possible.
Même dans la configuration actuelle.
Non, ce n'est pas possible. Mais je voudrais mentionner un fait important, c'est qu'il faut une mobilisation nationale. On ne doit pas considérer que c'est un fait qui concerne l'Est. Non, il faut une mobilisation nationale. Et cette mobilisation nationale de tous les citoyens...
Mais il y a eu des fosses communes même à Kinshasa.
Exactement.
Il y a eu des fosses communes au Kasaï.
C'est pour ça que je dis que toutes les provinces sont concernées. Mmh. Nous devons faire les choses de telle sorte que le président de la République soit amené à appliquer, à faire un plaidoyer lui-même, à prendre une position publique pour que le rapport soit mis en œuvre. Et comme il est dit dans le rapport, la justice de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, n'est pas capable de donner une suite à ce rapport.
Parce que le rapport demande à ce qu'on évalue également la justice pour ou contre la justice transitionnelle.
Non,
actuellement,
je ne pense pas. Parce que si nous nous concentrons sur la justice de notre pays, l'impunité sera gardée consacrée pour certaines personnes. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons...
Voilà, maître, on va revenir à vous. Le temps de retrouver Tamboué et les autres qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Mais nous rappelons à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent aussi participer à cet échange citoyen sur le rapport mapping. Comme vous le savez, les rapports des enquêtes d'experts des Nations Unies sur les violations les plus graves des droits humains et des droits internationaux humanitaires commises en RDC entre 1993 et 2003. Ces rapports recommandent notamment la mise en place d'une juridiction spécialisée pour juger les auteurs de ces crimes. Alors, dans les réflexions, les pouvoirs passés n'ont pas pu, disons, mettre en œuvre ces rapports. Est-ce qu'il en sera possible pour le gouvernement actuel, 081-890-6330 ou encore le 081-890-4969 pour que vous participiez à ces débats?
Attention, le bombo sur la droite, le bombo, oui, le bombo.
Retour aux émotions exclusivement sportives sur votre radio, c'est jeudi 1er octobre 2020. Le sport, comme vous l'avez toujours aimé, avec les infos, les directs des matchs, les portraits, les dossiers, les interviews et l'interactivité. Les retrouvailles donc, qu'on se le dise. Car la passion du sport, c'est Okapi Sport.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Maître Oscar Loulou, vous êtes avec nous? Maître Oscar, vous êtes avec nous?
Je suis avec vous, oui.
Alors, vous êtes député provincial de Tanganyika. Vous avez suivi l'actualité avec plusieurs manifestations qui ont été organisées la semaine dernière pour célébrer le 10e anniversaire du rapport mapping des enquêtes d'experts des Nations Unies. Alors, aujourd'hui, quel est votre commentaire par rapport à cette célébration?
D'abord, le souci majeur, c'est celui de justice. Les victimes ont besoin d'être récompensées. Et la réparation serait une bonne chose pour tout le pour tous ceux-là qui ont été victimes dans ces exactions. Mais le problème, c'est que il est difficile à celui qui a joué le rôle de loup dans ces rapports de pouvoir jouer au jour d'aujourd'hui le rôle d'un agneau. Alors, la difficulté majeure, c'est la répression.
Non, mais quand vous parlez en métaphore, c'est vrai que ceux qui vous suivent ont du mal à comprendre qui joue le rôle du loup et qui est l'agneau.
Je dis, il y a des listes qui ont été faites par les enquêteurs, les ONG, c'est-à-dire les experts au niveau international, voudrais-je dire, au niveau national. Mm-hmm. Et alors, dans ces listes qui ont été
il y a d'une part des loups,
il y a des gens, il y a expressément les noms de gens qui ont été cités. Mmh. Alors, parmi ces gens, il y a ceux-là qui sont au pouvoir, il y a ceux-là qui ne sont plus aux affaires, il y a ceux-là qui ont eu une parcelle de responsabilité quelque part dans le monde sécuritaire de notre pays. Mais il est difficile, lorsqu'on a été cité dans ce rapport comme loup, et aujourd'hui chercher à jouer le rôle d'agneau, c'est-à-dire se permettre d'aller devant les instances judiciaires qui risquent d'ouvrir une boîte à Pandore pour punir même ceux-là qui sont cités aujourd'hui, mais qui sont encore dans le règne du pouvoir. C'est ça la difficulté. Mais le souci majeur de ce rapport est de pouvoir rendre la paix. Et la paix passe par la justice. Si la paix passe par la justice, donc, les victimes doivent être récompensées par rapport à ce qu'ils ont reçu comme exaction par rapport à ces événements que nous sommes en train de déplorer au jour d'aujourd'hui. Mais au jour d'aujourd'hui, il est aussi à remarquer que les 617 cas cités par les experts dont je venais de faire allusion tout à l'heure restent encore impunis. Et il n'y a aucune démarche qui est faite. Mais aussi, nous encourageons de toutes les façons à l'absence du tribunal international évoqué dans les rapports. Mais il est aussi souhaitable qu'on puisse aussi, d'ailleurs, c'est ce qui a été écrit dans ces rapports, qu'il y ait une commission de réconciliation, paix et réconciliation. Cela peut résoudre aussi l'affaire.
Oui, mais il y a eu plusieurs dialogues par le passé pour arriver à ces résultats-là, la réconciliation. Mais cela n'a pas été le cas. Mais ça donnait plutôt une carte blanche à certains bourreaux.
Oui, bien sûr, c'est ce que je dis. Même dans les droits, nous avons toujours dit que mieux vaut un bon arrangement qu'un bon procès. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui blesse, là où le bas blesse, c'est que il n'y a même pas cette volonté de pouvoir récompenser les victimes. C'est là où le bas blesse. Si on pouvait au moins l'infisquer et récompenser les victimes...
Mais d'abord que le bourreau reconnaisse sa faute. Parce que si le bourreau ne reconnaît pas sa faute, ou ne reconnaît pas sa faute, il sera toujours en cavale.
Le bourreau ne reconnaît pas la force, mais la force est à la loi. Je pense que la force est à la loi. Si au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de réclamer la restauration ou l'installation de ce tribunal international, c'est pour contraindre les bourreaux à reconnaître ces forfaits. Et moi, je pense que là, il y a double volonté. Il y a d'abord la volonté des nationaux, c'est-à-dire nous-mêmes les Congolais, et la volonté de la communauté internationale. Mais si d'abord, la première volonté, c'est-à-dire de nous, les nationaux, c'est-à-dire l'État congolais, si nous n'avons pas cette volonté, la communauté internationale aura des difficultés pour nous accompagner. Et si l'État congolais devient complaisant, n'arrive pas à arrêter ceux-là qu'on connaît, qui sont sur place, mais quoi dire de la communauté internationale?
Si le bourreau est soutenu par une multinationale, donc là encore, ça sera difficile de pouvoir sortir du filet.
Mais c'est ce que j'ai dit, donc la double volonté, j'ai situé la communauté double volonté au niveau national et au niveau international. Mais s'il y a l'absence de ces deux volontés, il n'y aura rien qui va se passer, et surtout que les objectifs de cette guerre que nous déplorons aujourd'hui est le pillage. Et lorsqu'on parle du pillage, on voit l'économie.
Tout à fait.
Et cette économie est en train d'engraisser quelque part les gens qui sont derrière ça. C'est difficile de pouvoir réprimer ces gens-là qui sont d'abord financièrement très forts, qui sont politiquement et sur le plan diplomatique très forts.
Tout à fait.
C'est difficile de pouvoir d'inquiéter ces gens. Et je pense que la meilleure des choses, c'est la population qui doit se prendre en charge en réclamant justice.
Parce que vous avez imagé par le loup, il y a un adage qui dit les loups ne se mangent pas entre eux, ça serait difficile. Il faut vraiment trouver quelqu'un qui est plus fort que le loup pour au fait manger ces loups. Merci beaucoup, Maître Oscar, d'avoir accepté de participer dans cette émission. Tamboué, vous nous avez également rejoint, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre réaction, Tamboué?
Oui, ma réaction, avant tout, j'aimerais d'abord dire paix aux âmes de nos compatriotes qui sont morts par ces violences et condoléances aux familles qui ont perdu les leurs en République démocratique du Congo ainsi qu'en ville de Beni où j'interviens. Vous allez constater avec moi, monsieur le journaliste, que il y a des gens qui ont la bonne volonté de faire de bonnes choses, mais c'est l'application qui fait défaut à la République démocratique du Congo. Nous attendons à ce que la communauté internationale puisse venir installer ces tribunaux spéciaux à la République démocratique du Congo pour traquer ces délinquants-là qui veulent toujours commettre les troubles dans notre pays. Et j'aimerais suggérer à ce que ces tribunaux-là puissent se mettre dans les milieux qui sont plus touchés, en l'occurrence de la ville de Beni et territoire, ainsi qu'en Ituri, pour que ces affaires-là soient effectives.
Voilà, on va prendre Gilles qui est à Bukavu. Gilles, bonjour. Merci Tamboué d'avoir appelé de Beni. Gilles, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Gilles, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Je tiens d'abord à solliciter la thématique du jour. Bon, par rapport au rapport mapping, moi je pense que c'est un combat vraiment, le rapport mapping doit avoir donc ses résultats. Et ce résultat, à mon avis, c'est de voir les auteurs donc qui ont pu commettre ce genre d'atrocité puissent être jugés. Mais pour moi, je vois qu'il y a d'autres actes, donc d'autres crimes qui se font ici chez nous en RDC. Mais pour moi, ce qui est essentiel, on devrait d'abord penser à ce qui se passe aujourd'hui au lieu de se focaliser à ce qui
était passé.
Oui, oui, parce que si nous disons que ce qui est déjà fait, par exemple, 23 ans, 30 ans, et nous avons des actes qui se font du jour en jour dans notre pays et qui n'ont pas de suivi, je pense que c'est en quelque sorte un paradoxe. Donc pour moi, le sens serait d'abord de nous focaliser à ce qui se passe ici à l'est du pays, par exemple à Beni, ici chez nous aussi, chez vous, les actes qu'on est en train de dénoncer de 1900, je ne sais pas, 93, jusqu'au 96, jusqu'à aujourd'hui, il y a déjà 23 ans, si ma mémoire est bonne. Alors, ces actes se sont passés à Kasika. Moi, j'y étais, j'ai pu être même témoin de ces fausses communes, parce que je fréquente souvent ces territoires et je vois ces fausses communes au niveau de là. Alors, le grand problème serait de nous focaliser au problème
sur les actes qui se passent aujourd'hui à l'Est. Merci beaucoup, Jules, d'avoir appelé de Bukavu. Alors, Gracia, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quel est votre avis, Gracia?
Vraiment, je salue le rapport MAPI, les enquêtes des sphères des Nations Unies sur les violations les plus graves des droits humains et des droits internationaux humanitaires commises dans notre pays entre 1993 et 2003. Je crois que pendant cette période, c'était encore mineure, mais elles avaient vaincu quand même ces événements. Et c'est regrettable de voir encore un 10e anniversaire sans avoir une poursuite judiciaire antécédente. Cela prouve la faiblesse de l'État congolais au niveau international et face au monde entier, parce que jusqu'à présent, des personnes et des maisons victimes pendant la guerre de 6 jours dans la ville de Kisangani restent abandonnées. D'où cette ville était considérée comme l'espace vert de guerre entre le Rwanda et l'Ouganda. Moi, je crois qu'il faut appliquer les recommandations de ces rapports. Premièrement, d'abord, les autorités politiques et judiciaires de notre pays doivent s'impliquer pour connaître le vrai auteur de ces crimes. Et deuxièmement, il faut savoir que c'est une question internationale où la RDC doit chercher à avoir des soutiens diplomatiques forts au niveau de la Cour pénale internationale. Et pour terminer, pour que ces recommandations soient satisfaisantes aux yeux de la population congolaise, elles doivent être accompagnées d'une réparation, de l'indemnisation juste et préalable à la faveur des
victimes.
Voilà un peu
de ta contribution. Merci beaucoup, Gracia, d'avoir contribué dans cette émission. On va prendre Dodé qui est à Lubumbashi. Dodé, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes avec nous, Dodé.
Ça va, merci, monsieur le journaliste. Je suis en ligne. Merci de nous avoir encore fait l'honneur.
Quel est votre commentaire par rapport à ces rapports mapping?
Bien, nous saluons le travail abattu par les experts onusiens. C'est ainsi, de mon point de vue, il serait d'abord important de rechercher les véritables causes. 10 ans après que ce rapport soit fourni, qu'est-ce qui entrave ou bloque l'exécution des différentes recommandations contenues dans les deux rapports? Est-ce que nous pouvons dire que c'est Kinshasa ou soit c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui bloque l'exécution des dix rapports, ou soit les dix rapports étaient entachés de vices c'est-à-dire les rapports n'étaient pas menés en toute impartialité ou indépendance. Pourquoi le chef de l'État, dans ses deux discours tenus devant la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, n'en est-il pas revenu sur ça? Tous ces questionnements devaient d'abord nous permettre à déceler le niveau de l'exécution du rapport pour maintenant nous permettre à réfléchir de ce qu'on doit faire afin que les recommandations contenues dans les rapports puissent être exécutées. Qu'à cela ne tienne, monsieur le journaliste, l'implantation du tribunal spécial est, de mon point de vue, un facteur dissuasif et d'intimidation aux auteurs des crimes qui continuent à semer la désolation dans cette partie du territoire national. Et pour finir, nous avons des préoccupations à se mettre à l'éviter.
Allez-y rapidement.
À ce stade, il revient de la responsabilité de qui, au niveau interne, de faire pression afin que les recommandations contenues dans ce rapport soient
mises en œuvre. Merci beaucoup, Gracia, d'avoir appelé de Lubumbashi. 081 890 63 30, encore le 081 890 49 69 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Maître Katende, vous avez suivi les uns et les autres. C'est vrai, il y a beaucoup qui ont exprimé leur volonté de voir ces rapports être mis en œuvre. Mais bien entendu, en évoquant également quelques difficultés rencontrées tout au long du chemin. Alors, quelle est votre réaction?
Merci, J.R., pour la parole que vous m'accordez. Je pense que, de manière générale, tous les intervenants ont abordé la question comme je l'ai fait précédemment. Donc, il se dégage un souci pour tous les Congolais que les crimes qui sont décrits dans le rapport mapping ne puissent pas rester impunis. Mais je veux revenir sur ce que Jules a dit. Il a dit notamment qu'au lieu de se préoccuper des questions du passé, il faut s'occuper du présent. Mais ce que nous vivons dans le présent tire sa source de notre attitude par rapport à ce qui s'était passé dans le passé, si vous le permettez.
Tout à fait.
Si on avait réagi conséquemment en traduisant tous les auteurs de tous ces crimes devant les cours et tribunaux, je ne pense pas que nous serions là aujourd'hui. Si on n'avait pas accordé les amnisties de manière cavalière, nous n'en serons pas là aujourd'hui. Si les dialogues qui ont été organisés ne l'étaient pas seulement pour la forme et surtout pour faire passer les bourreaux de l'état de bourreaux vers l'état de personnes saintes, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Et donc, nous devons faire en sorte que les crimes qui sont décrits dans le rapport mapping soient punis. Mais en même temps, nous devons nous poser des questions. Ceux qui ont commis d'autres crimes après ceux qui sont décrits dans les rapports, doivent-ils rester impunis? J'ai dit non. Et si nous voulons vraiment que la question...
Parce que quelque part, ça prête un peu à confusion. D'une part, il y a le statut des Roms avec la CPI. De l'autre côté, il y a le rapport mapping qui recommande à ce qu'on ait une justice transitionnelle, une justice spécialisée. Alors, donc, ça prête quand même à confusion pour dire quand même qu'il y a d'autres personnes qui ont commis des actes en dehors de 93, en 2003. Ils sont concernés aussi par d'autres juridictions.
Évidemment. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour nous qui travaillons sur la question depuis longtemps, il n'y a aucun problème qui se pose. Si vous prenez, par exemple, les crimes qui ont été commis en 1993 jusqu'à 2001, ces crimes-là ne relèvent pas de la compétence de la CPI. Parce que les statuts de Rome sont entrés en vigueur en 2002. Maintenant, si vous prenez d'autres crimes aussi, vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas des crimes dont la CPI pourrait directement s'occuper dans la mesure où la CPI elle-même, c'est une justice complémentaire. Complémentaire, c'est-à-dire qui arrive là où la justice nationale ne fonctionne pas. Maintenant, il ne faut pas que nous puissions oublier que en même temps, la justice doit faire en sorte que tout le monde soit pris en compte. Il y a aussi des pays qui sont directement concernés par, euh, par ce travail, mais qui ne sont pas en fait concernés par les statuts des Roms. Donc vous voyez qu'ils ne sont pas membres de la CPI. Ces gens-là risquent d'échapper à la justice internationale. C'est pour ça que nous estimons que la justice congolaise n'est pas à mesure de réprimer les crimes en question parce que certaines de nos autorités sont directement concernées.
Tout à fait.
Et donc, la justice va être en difficulté pour le faire. Combien de plaintes n'a-t-on pas déposées contre certaines personnes du FCC aujourd'hui qui n'ont jamais été instruites? Mais maintenant, si on doit revenir à ces crimes graves, je ne pense pas que la justice congolaise soit à mesure.
Alors, si je peux reformuler la question de Jules qui demandait qui est habilité à pouvoir activer les choses, en tout cas accélérer la question pour que la justice, une juridiction spécialisée puisse être instaurée à RDC. Donc moi je reformule en disant par exemple, quel est le mécanisme qu'on va utiliser, et le gouvernement peut utiliser, quelle est la stratégie qu'il va utiliser, quelle est la démarche à mener pour arriver finalement à la mise en œuvre de cette juridiction spécialisée.
Je pense que un des auditeurs a dit quelque chose de très important. Et pour moi, j'estime que d'abord, il est important que la justice, les autorités de la République démocratique du Congo puissent parler de la question. Pourquoi le président de la République est-il intervenu, au lieu de parler d'autre chose,
c'est cette question-là qu'il
faut. Exactement. Pourquoi le président de la République est intervenu aux Nations Unies sans avoir parlé de cette question? Alors que c'est une question qui préoccupe les Congolais. Il a même parlé des questions qui préoccupent la communauté internationale, qui ne sont d'aucun intérêt direct pour le pays. Pourquoi le président de la République n'a pas parlé de cette question? Pourquoi a-t-il esquivé la question? Alors que c'est une question qui concerne des milliers de Congolais. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, il n'y a aucune famille congolaise qui n'ait pas été touchée par un des incidents mentionné dans le rapport ici de manière directe ou indirecte.
617 cas.
Oui. Donc, il est important que d'abord les autorités du Congo, le Premier ministre, le Président de la République, les ministres des Affaires étrangères, les ministres des Droits de l'Homme, les ministres de la Justice commencent à parler de manière publique de cette question. Mais nous savons que ils ne les font pas encore. Et c'est inacceptable que ceux-là qui sont censés mener la campagne, les plaidoyers internationaux pour que ces crimes soient commis, le fassent dans des salons au lieu de le faire de manière publique pour que toute la communauté nationale en prenne en compte.
On va terminer cette émission. On va pas éviter de... Il y a un auditeur qui est là, Juvenal. C'est Juvenal, là, Boutembo. Juvenal, vous êtes avec nous? Juste, vous allez placer un mot également avant qu'on puisse conclure avec notre invité. Juvenal, vous êtes à Bukavu.
Exactement, oui.
Alors, quelle est votre réaction?
Bien, merci. Nous avons tous suivi ce qui s'est passé dans toutes les provinces de la RDC le jeudi 1er octobre cette année, comme c'est le sujet d'ailleurs. Mais je ne sais pas si, en parlant des recommandations du rapport Mapping, nous tenons réellement compte du fait que la plupart des auteurs de ces crimes contre l'humanité, des violations graves des droits humains et du droit international commis en RDC de 1993 à nos jours, parce que moi je ne voudrais pas parler de jusqu'en 2003, parce que ce qui se commet aujourd'hui à Butembo, c'est inacceptable, à Beni, tout ça.
Voilà. Merci beaucoup, Juvenal, parce qu'il y a un auditeur qui vous a précédé, qui a évoqué cet aspect. On est désolé, on ne saura pas aller plus loin parce que le temps nous fait défaut. Notre invité va placer également, juste en une phrase, un mot, pour qu'on puisse conclure cette émission, Maître Katende.
Merci, JR, pour m'avoir permis de participer à cette émission. Je suis content que ce débat revienne sur l'agenda de tout le monde. C'est déjà une très bonne avancée. Maintenant, nous devons nous mobiliser en tant que population pour contraindre les autorités de la République démocratique du Congo, particulièrement le président Félix Tshisekedi, à parler publiquement de cette question et à demander que la justice soit faite.
Maître Katende, président de l'Azado, merci
et d'avoir accepté notre invitation. Et merci également à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Polydor Basunga, Pierrot et Lameji, Jir Lungembo Labung Angie était à la présentation. On prend rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro des Paroles aux Auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.